Motors, Jean Lecroix.
Et bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les dimanches pour vous parler de sport mécanique. En l'occurrence, le planning et le plateau est chargé aujourd'hui puisqu'on parlera bien évidemment de F1 dans un instant avec les qualifs et puis le départ du Grand Prix de Hongrie dans 55 minutes maintenant. On parlera également d'un rallye de championnat du monde, c'est la Finlande évidemment, vous le savez, c'est les jumps qui sont à l'ordre du jour là-bas et on aura Eric Briquet pour nous en parler. Puis on aura Cyril Després, le vainqueur du Silkway Rallye dans la semaine. Mais tout de suite, j'ai le plaisir de retrouver Adrien Tambay. Bonjour Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et puis c'est une tradition, vous le savez, et ça nous fait toujours un immense plaisir de retrouver Patrick Tambay également. Salut Patrick.
Bonjour messieurs.
Et puis on aura Louis Amar qui est là-bas dans la chaleur, on va dire, j'ai pas dit, la moiteur de la Hongrie et de Budapest. Louis. J'aurais pu.
Salut à tous, bonjour messieurs.
Salut Louis.
Allez, on évacue le sujet, il est traditionnel, ça veut dire qu'il fait beau et chaud dans le chaudron de Budapest, Louis.
29 degrés dans l'air, 56 sur la piste et aucun risque de pluie durant la course.
Alors Patrick, on l'évoque ensemble régulièrement sur l'antenne de RMC, la radio de la Formule 1. La Hongrie, c'était quelque chose, tu l'as vécu, tu étais là au départ du premier Grand Prix de Hongrie, c'était en 1986 et c'était un événement considérable. Il y avait 250 à 300 000 personnes sur les collines qui entourent le circuit.
Oui, c'était à l'époque de ma fin de carrière, hein, quasiment, et je me souviens d'une course dantesque, hein, c'était une étuve, c'était comme courir dans un sauna. À l'intérieur d'un sauna, t'imagines la température et l'humidité qu'il peut y avoir. On était comme des poissons avec la bouche qui cherchaient à l'air. Gober le maximum d'air. C'était terrible.
L'air brûlant, l'air chaud. Alors justement, tu as peut-être déjà la température qui règne sur ce tracé, Louis.
Oui, 56 degrés sur la piste. Ouais. C'est assez humide et comme ce circuit est dans une cuvette, le vent n'y pénètre pas, donc c'est effectivement extrêmement difficile. On peut se souvenir de la phrase de Mark Webber qui parlait du Grand Prix de Singapour en disant, comme Patrick le soulignait, c'est comme faire l'amour dans un sauna. Et ben c'est un petit peu la même chose ici sur le Hungaroring. C'est extrêmement éprouvant, d'autant plus que cette nouvelle génération de monoplaces est beaucoup plus exigeante physiquement que les précédentes, ce qui veut dire que les pilotes et leur physique, leur endurance va être mise à rude épreuve cet après-midi.
Ouais, tu sais Louis, les monoplaces de l'époque étaient assez physiques aussi, hein. Et mais les pilotes étaient un petit peu
moins
un
en
petit
forme.
Peu plus
moins en forme.
Comment ça,
non mais je ne te permets pas.
Non,
pas moins en forme, mais moins entraîné peut-être. Ouais, non,
voilà. Écoute, alors j'étais lui entraîné dans un sauna, pas à faire l'amour, mais j'ai des pompes. J'ai des pompes avec un copain assis sur le sol.
Patrick, stop. On s'arrête là. On dérape.
Non. Il est parti pour 2 heures tout à l'heure.
Oui. Alors, on a dit qu'on n'allait pas sur ce terrain-là. Patrick, ce circuit extrêmement sinueux, hein, on dit le Monaco dans les circuits traditionnels, c'est un petit peu ça quand même, avec l'équilibre des monoplaces qui est extrêmement important à trouver, à déterminer.
Alors, il y a Singapour aussi maintenant qui commence à devenir une référence en la matière. Les pilotes ont souffert énormément à Singapour lorsqu'il y avait l'ancien tarmac qui était un petit peu bosselé, qui avait du mal à se stabiliser. Maintenant ça va un petit peu mieux, mais c'est une moyenne autour qui est assez faible. Mm-hmm. Il y a 3 secteurs dont un qui est très très important, c'est le second, c'est là où le temps se fait selon moi. Il faut être en pleine accélération et toujours avoir un équilibre parfait dans cette portion qu'on appelle le S.
Et oui, c'est clair. Serpent. Ce tracé long de 4 km 381 à parcourir à 70 reprises, ça fait 306 km 630. La course est longue, hein, traditionnellement, voilà. Louis, et puis il y a des possibilités également de safety car.
Oui, il y a pas mal de possibilités de safety car, notamment après le premier virage, qui souvent fait pas mal de dégâts, parce qu'il y a énormément d'opportunités de dépassement à ce premier virage. Il y en aura d'autres au virage numéro 2.
Oui.
Après, les écarts se creuseront, c'est Esteban Ocon qui nous disait ça hier soir, avant peut-être de pouvoir redoubler au virage numéro 6, exactement.
Et oui, et puis Patrick, on se souvient de quelques freinages d'anthologie au bout de cette ligne droite qui plonge, hein, un petit peu, qui plonge dans le droite, avec une visibilité qui est limitée à l'amorce de cette courbe.
Oui, c'était un endroit bien sûr très très stratégique et très facile entre guillemets pour tenter un dépassement, comme Stéphane Ocon.
Esteban.
Oui. Il a remarqué, il apprend vite d'ailleurs ce garçon. que dans le gauche, eh bien, on peut ensuite replonger à la corde et ensuite, eh bien, c'est un semble plus difficile.
Eh oui, c'est un véritable enchaînement. Alors, la pole, vous le savez, elle revient à Sébastien Vettel. Ça tombe bien, puisque Louis Amar l'a rencontré pour nous parler justement de cette pole à l'issue des qualifs du Grand Prix de Hongrie. Alors, il a un peu assommé la concurrence avec un temps extraordinaire. 1 minute 16 secondes 276, voilà, je regardais, parce qu'en Q1 il avait roulé en 1:17 244, il a carrément gagné une seconde entre la Q1 et la Q3. On va écouter justement Sébastien Vettel à propos de cette pole au micro de Louis Amar.
C'était une très bonne journée, la voiture était fantastique, elle s'est améliorée tout au long de la qualif jusqu'à la Q3. Sur ma dernière tentative, je me suis fait une petite frayeur dans le troisième secteur, mais globalement c'était vraiment super. On a apporté quelques évolutions, des petites choses qui ne se voient pas et qu'on a testées alternativement avec Kimi pendant les séances d'essai. Toute l'équipe travaille énormément et reste très flexible pour vraiment être à notre écoute et changer les choses quand on le demande. C'est fatigant pour tout le monde, mais on aime ça. On aime ce sport et des journées comme ça le rendent très excitant.
We love racing and days like this obviously make it very enjoyable.
Ah ben oui, il y a de quoi être excité effectivement quand on détient la pole et on sait que c'est l'une des clés. Je vous donne quand même la pole de Rosberg il y a un an. 1:19 965. Je vous répète le chrono signé Adrien, c'est impressionnant, par Vettel. 1:16 276. Il y a rarement des circuits sur lesquels effectivement on a gagné autant de temps. Hein.
Bah c'est effectivement l'écart dont on parlait avant la saison avec ces nouveaux pneus et puis cette nouvelle réglementation, ces voitures qui ont beaucoup plus d'aéro. On sait que sur ce circuit on charge les voitures en aéro le plus possible et puis en même temps le grip mécanique est très important, comme le disait papa, ce deuxième secteur où on doit emprunter les vibreurs et avoir une voiture parfaitement équilibrée pour faire le chrono. Aujourd'hui, enfin hier en qualif, on l'a bien vu, plus de 3 secondes plus rapide que l'année dernière. Ça va vraiment changer la vie des pilotes aussi en course, puisqu'on va être plus rapide en course. On est capable cette année d'attaquer beaucoup plus du début à la fin avec ces nouveaux pneus et physiquement c'est un circuit très très compliqué. En plus de ça, on doit agir au niveau du différentiel, de la balance de frein plusieurs fois au niveau du volant avec les conseils de son équipe, donc c'est beaucoup de choses à gérer pour un pilote, et pendant 70 tours croyez-moi, avec les marbles qui se déposent, ces dépôts de gomme au fur et à mesure de la course, une seule vraie ligne se dessine et la moindre erreur est fatale, donc c'est vraiment un circuit compliqué pour cet après-midi.
Un circuit très compliqué avec de surcroît, Patrick, des virages en dévers, hein, on l'a dit, on a vu Romain Grosjean notamment se battre avec l'équilibre de sa Haas hier et partir en tête à queue.
Oui, mais si tu veux, je trouve que Adrien a très très bien retenu sa leçon quand il était en DTM. Il faut serrer la corde au maximum. Plus la course avance, plus il y a de l'adhérence, mais à la corde. Et il faut donc serrer dans tous les virages l'entrée dans ceci.
Alors, on sait que la première ligne sera entièrement aux couleurs de Ferrari avec Sébastien Vettel, on vous l'a dit, qui a signé la 48e pole position de sa carrière de pilote de Formule 1, la deuxième de la saison 2017. À ses côtés, il y aura Kimi Raikkonen, qui l'a dominé assez nettement, hein, puisque Raikkonen, 1:16 444, bon, c'est pas un gouffre non plus, hein, c'est 1/10 et demi, mais enfin, il est là. Valtteri Bottas sera sur la deuxième ligne avec le troisième temps. Évidemment, l'adversaire numéro 1, puisqu'il n'a qu'un point d'écart au championnat, c'est Lewis Hamilton. Ça tombe bien, puisque Louis Amar lui en a parlé et lui a parlé de ses qualifs en Hongrie, un petit peu en demi-teinte, on va dire, pour lui.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont une évolution sur leur voiture? Est-ce qu'on est allé très lentement ou très vite? Je ne peux pas vous le dire. Si on veut être réaliste, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à espérer pour la course. La stratégie, le départ, les pneus, pourquoi pas des incidents? Mais c'est quasiment impossible de doubler. Ça va être dur de suivre les Ferrari, ça s'annonce vraiment compliqué. Il y a eu des courses folles ici, mais sous la pluie. Et il va faire beau normalement, donc je ne m'attends pas à un Grand Prix de dingue. Mais si jamais c'était le cas, ça serait bien pour tout le monde.
Oui, ce serait bien pour tout le monde. Effectivement, c'est Lewis Hamilton qui va essayer de compenser ce handicap, notamment au moment du départ et vis-à-vis de son équipier Valtteri Bottas. On a compris qu'entre les deux hommes, il n'y aurait pas de cadeau également. Patrick, j'ai envie de te poser une question avant de te libérer. C'est à propos du halo, tu sais ça, évidemment.
Oh. Ouais,
oui, on en parle. On en parle beaucoup, toi qui as connu évidemment la Formule 1 fin des années 70, des années 80. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique, on peut dire ça comme ça, ou de ce système qu'on imposerait a priori dès 2018.
Ah, s'il apporte un gain de sécurité si les pilotes sont moins sous le danger. Effectivement, quand ils partent en tonneau, on a vu pas mal d'accidents ces temps-ci de ce type. Ça peut sauver une vie. Et bien, il faut bien entendu faire une croix sur l'esthétique. Hein. Mais bon, je pense que c'est aller un petit peu trop loin. Il faut quand même essayer de trouver quelque chose de plus.
Oui. Mieux adapté peut-être.
Oui,
plus testé. Impeccable. Je te remercie beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous pour cette présentation.
Soyez forts, messieurs.
On va essayer. Je sais que tu vas nous écouter, tu ne nous laisseras rien passer et tu as raison.
Je ne dors pas avec vous, non, ça, c'est... Je ne dors plus.
Merci infiniment, Patrick. La bise et bon week-end avec nous et surtout bon Grand Prix de Hongrie. Louis, on revient évidemment à ce qui se passe sur la grille de départ. Une première ligne toute rouge, on va dire qu'après l'explosion, par parenthèse, on va peut-être revenir d'un mot sur les explications, un petit peu embrouillées d'ailleurs de Pirelli à propos des problèmes qui ont frappé le pneu avant gauche des deux Ferrari à Silverstone.
Oui, les explications du manufacturier italien n'ont pas convaincu grand monde, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Il s'est agi d'une crevaison lente pour l'un des deux pilotes Ferrari, d'après Pirelli, d'un événement extérieur exogène qui a causé l'explosion du deuxième pneu avant gauche de l'autre pilote de la Scuderia. Mais bon, ce qui se murmure dans le paddock, c'est peut-être aussi que Ferrari avait été un petit peu audacieux sur certains réglages et qu'ils ont payé le prix fort à la fin de ce Grand Prix quant à l'usure des pneumatiques. En tout cas, ce sont des gros points que Ferrari a laissé échapper à Silverstone. C'est un week-end qui a pris des allures de catastrophe parce que Sébastien Vettel pouvait passer l'été au chaud, hein, en cas de belle performance à Silverstone. Il aurait été sous une menace beaucoup moins directe de Lewis Hamilton, d'autant plus que Valtteri Bottas également est revenu dans le jeu. On rappelle qu'aujourd'hui, au classement général provisoire du championnat du monde, ils sont trois à se tenir en une seule victoire, en 23 points entre Sébastien Vettel et Valtteri Bottas. Et puis il y a un autre enjeu pour Ferrari qui n'est pas du tout anodin, c'est le championnat constructeur.
Et, oui.
Et dans le championnat constructeur, évidemment, les défaillances de Vettel et Raikkonen sur la fin du Grand Prix de Silverstone coûte très très cher à la Scuderia, parce que Raikkonen ne pointe qu'en cinquième position aujourd'hui du classement général provisoire des pilotes.
Absolument, Louis. Et pour rebondir sur ce classement constructeur, mené par Mercedes bien sûr avec 330 points, Ferrari 275, et c'est vrai qu'au dernier Grand Prix en Grande-Bretagne, eh bien Mercedes a scoré 43 points contre 21 à Ferrari. C'est moins que Red Bull qui en avait mis 22 points dans ce Grand Prix. Je vous propose, messieurs, de partir vers le désert, mais pas celui que vous imaginez, pas en Afrique, pas en Amérique du Sud. C'est du côté de l'Asie qu'on va se retrouver avec le vainqueur du Silkway Rally qui est arrivé il y a une petite semaine seulement à Xi'ang en Chine. Il s'agit de Cyril Després, un ancien motard. Salut Cyril.
Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans cette émission. Tu vois, je te l'avais promis, on te fait de la place au milieu de la Formule 1. Alors écoute, déjà félicitations hein, pour cette superbe victoire au volant de la Peugeot 2008 en compagnie de David Castera. On peut dire que la bataille a été rude, essentiellement entre les pilotes Peugeot d'ailleurs.
Oui, en fait, tu connais l'histoire, on se bat déjà contre nous-mêmes, contre le désert, contre la course. Il y avait 10 000 km entre Moscou et Xi'an, dont 4 300 km de spécial. Donc, bon, c'est sûr qu'on se bat contre ses coéquipiers, en l'occurrence Sébastien Loeb et Stéphane Peterhansel, mais là, particulièrement, avec les conditions qu'on a eues, on s'est battu contre les éléments.
Voilà, il y a eu des conditions météo extrêmement difficiles, effectivement, notamment au début. Hein. Beaucoup de pluie qui a ravagé les pistes, et même après, puisque c'est comme ça que Sébastien Loeb s'est fait piéger par une ravine terrible.
Oui, en fait, l'an dernier, on avait eu une partie de Russie et de Kazakhstan assez sèche, donc on s'attendait à peu près à la même chose. Et puis, la boue, la pluie, des conditions un peu délicates avec des véhicules qui sont quand même faits pour le désert, mais bon, qui passent très bien partout, c'est Peugeot, DKR. Et dès qu'on arrivait en Chine, il y avait des saignées, les ouèdes, les rivières asséchées étaient vraiment dans un piteux état. Et comme il a plu entre l'ouverture, les véhicules qui devancent le rallye, qui sont 4-5 jours devant nous, on est tombé dans des pièges qu'il fallait éviter, on va dire.
Alors, ce sont des décors somptueux hein, du côté du Kazakhstan et de la Chine, avec des déserts, avec du sable. On a pu voir ça tous les jours sur Motorsport TV. On avait un programme tous les soirs. Effectivement, tu as retrouvé des décors que tu avais connus à moto, puisqu'on rappelle que tu es un grand vainqueur à moto à 5 reprises du rallye du Dakar, hein, Cyril. Et tu es passé aux 4 roues. Tu as suivi un petit peu Stéphane Peterhansel, la même évolution, on va dire.
Ouais, exactement. C'est vrai que les dunes et le désert de Gobi, on a du mal à quantifier et à voir la dimension que ça peut prendre. par rapport à un grand continent, un grand pays comme la Chine, pardon. Mais ouais, ce désert de Gobi, il est un des plus grands du monde. Il y a le Sahara, mais bon, rien à envier, des grosses dunes. Et puis il n'y a pas de piste ni la moindre habitation à des dizaines et des dizaines de kilomètres à la ronde. Donc c'est du hors-piste et donc c'est du rallye raid.
Et oui, puis tu ouvres la piste et tu le rappelais, on a discuté un petit peu hier, hein, tu disais, Cyril, toi qui as été motard et qui a ouvert la piste à moto, il n'y a pas les traces des motards justement devant, donc ça ne fournit pas cette indication qui est quand même très importante pour les plus rapides des pilotes auto.
Ouais, c'est vrai que quand on a été motard, on arrive à lire la piste. Toutes ces années où j'étais derrière Marcoma ou d'autres, bah, j'ai appris à lire la piste avec des traces devant. Sur ce Silkway 2017, il n'y avait pas les motos. Elles seront là à partir du Silkway 2018. Et donc, c'est le jeu d'essayer de faire une bonne trace, d'essayer d'aller le plus droit possible entre chaque note, essayer de perdre le moins de temps possible. Et c'est vrai qu'on a perdu un petit peu l'habitude parce que faire des étapes de 300-400 kilomètres dont 150 kilomètres de hors-piste, ça se trouve pas partout dans le monde non plus, 150 kilomètres de dunes et de hors-piste, mais là-haut, en tout cas en Chine, il y a pas de problème.
Et est-ce qu'on peut dire éventuellement, Cyril, qu'on retrouve un petit peu là aussi les longues étapes au milieu de nulle part, au milieu de rien, qu'on avait connu en Afrique, hein, on sait pourquoi malheureusement le Dakar a dû quitter le continent africain, mais on retrouve cet esprit d'aventure peut-être?
C'est sûr que c'est aussi le côté un peu fun d'aller sur cette course, c'est que il y a un côté aventure. Personnellement, c'était la deuxième fois que je mettais les pieds au Kazakhstan, en Russie et presque en Chine. Donc forcément, il y a des aléas. On ne sait pas exactement où on va. On essaie de faire et d'appréhender la spéciale au fur et à mesure des kilomètres. Mais ouais, il y a une inconnue quand même. Quand on part le matin, on n'est pas sur des terres comme en Amérique du Sud où on s'imagine le type de terrain sinueux, rocailleux, de la montagne. Là, on découvre au fur et à mesure des kilomètres. Donc c'est vrai que quand t'es passionné de compétition, de course, de rallye raid, mais aussi un peu de découverte, là ça s'y prête.
Bah oui, c'est génial. Cyril Després, un vainqueur avec David Castera. Et deuxième victoire consécutive, hein, Cyril, il faut le rappeler, le doublé en quatre routes, en confiance avant le Dakar.
Nous voilà en confiance, comme tu disais. Il y a David Castera, faut pas oublier que
bien sûr.
Maintenant on est quand même deux dans la voiture. David a fait du bon boulot. Il fallait pas tomber dans des pièges de navigation, des pièges de rester sur des caps pendant 12 kilomètres sans savoir si on est sur la trajectoire idéale ou pas. Et c'est vrai que David a fait du super taf pendant ce mois de juillet. On prend confiance. Ouais, l'an dernier. Certains pouvaient dire que c'était peut-être un petit coup de chance. On avait gagné notre première course au bout de 2 ans d'expérience. Bon, là, on récidive. Donc, je sais pas quelle est la part de chance. Il en faut toujours. Mais en tout cas, on commence à voir la vitesse. On essaie petit à petit d'augmenter le rythme. On a des maîtres devant nous. Hein, déjà dans notre équipe chez Peugeot, on a, ouais, entre Stéphane et Sébastien Loeb, on sait que il faut, pour être rapide comme eux, c'est pas facile, mais on essaie d'être régulier et d'augmenter notre capacité à rouler vite en 4 roues.
Bien sûr. Allez, une dernière question avant de te lâcher, Cyril, puis je sais que tu vas regarder le Grand Prix de F1 où tu vas l'écouter avec nous évidemment sur RMC. L'arrivée des motos, évidemment, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour toi, l'ancien motard.
Ça va être une bonne nouvelle, mais ça va être une grosse partie, hein, faire 10 000 km. En moto, c'est toujours une épreuve. Ça a rien à envier à un Paris-Dakar. Une moto, ça a toujours une selle, deux roues, un guidon, c'est une réalité, mais c'est des heures et des heures de conduite. La différence qu'il y a par rapport à un Paris-Dakar qui est sur le même fuseau horaire quasiment, c'est que là, au bout de 5 jours, on prend 2 heures de décalage entre la Russie et le Kazakhstan. 5 jours après, on reprend encore 3 heures de décalage. Donc les nuits vont être courtes, mais je pense que c'est une belle aventure à vivre en moto. En tout cas, ça sera déjà une victoire pour ceux qui vont se présenter au départ de Moscou l'an prochain. Finir un Silkway 2018, je peux te dire que ce sera pas donné à tout le monde.
Ce sera pas donné à tout le monde, effectivement. Et c'est ce que Frédéric Lequien, le co-organisateur du rallye, nous a annoncé. Merci beaucoup, Cyril Després, d'avoir été avec nous en direct dans Motors aujourd'hui. Félicitations et repose-toi bien.
Merci,
bravo Cyril. À bientôt, à bientôt Cyril. Salut. Voilà, Cyril Desprez, vainqueur du Silkwe Rally, donc il y a une semaine à Chiang en Chine. Allez, on va revenir à la Formule 1 dans un instant. Vous restez avec nous, bien évidemment, encore plein de réactions à vous faire écouter avec Adrien et avec Louis.
RMC Motors avec Motor CV. RMC Motors. Jean-Luc Roy.
Allez, il reste 34 minutes avant le départ du tour de formation de ce Grand Prix de Hongrie. Je vous rappelle qu'il y aura 70 tours à parcourir de ce tracé long de 4,381 km, soit un peu plus de 306 km. Et puis, on va ouvrir la voie des cendres dans 4 minutes. Alors, on vous a fait écouter il y a un instant les réactions de Vettel après sa pole, la réaction d'Hamilton qui ne partira que quatrième sur la deuxième ligne de la grille de départ. Je vous propose d'écouter maintenant ce que Sébastien Vettel a déclaré à Louis Hamar. Il fait le bilan de la première partie de la saison qui le voit mener le classement général provisoire du championnat avec un petit point. Écoutez bien ce qu'il dit à propos de ce qui semblait être la méforme des Ferrari lors du dernier Grand Prix.
Je pense que si vous êtes juste, il faut nous donner une note proche de 10. Parce que si vous demandez quelle équipe a le plus progressé entre la saison dernière et celle-ci, c'est Ferrari. Et si vous demandez quelle équipe est la plus surprenante sur les 10 dernières courses, c'est encore Ferrari. Évidemment, je dis ça alors qu'on sort de deux Grands Prix difficiles, mais c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Globalement, on est sur le bon chemin. Et si nous sommes compétitifs aujourd'hui, c'est parce qu'on a énormément travaillé. Donc il faut continuer à faire ce qu'on fait.
We have to keep on doing what we're doing.
On peut dire qu'il essaie de se rassurer ou il y croit vraiment, Adrien? Enfin, ça, c'est évidemment après sa pole, hein. Donc, il part très bien, là, sur ce Grand Prix de Hongrie.
On était dans une phase un peu, jusqu'à maintenant, les derniers Grands Prix où les taux se resserraient un peu pour Sébastien Vettel et Ferrari parce que, tout simplement, l'avantage que ces Ferrari avaient sur les longs relais en course avait tendance à s'amenuiser au fur et à mesure des courses. Mais on était aussi sur des circuits où la conception et on en reparle encore le long empattement de la Mercedes était mis en valeur, les circuits rapides qui étaient l'Autriche ou Silverstone, et puis en qualification l'avantage des Mercedes semblait aussi grandir. Maintenant on entame la deuxième moitié de saison, clairement c'est un tournant, les cartes sont remises, tout repart de zéro, il n'y a plus qu'un point entre les deux premiers du championnat et on arrive sur un circuit où sur le papier c'est Ferrari doivent être meilleurs que les Mercedes et si ce n'était pas le cas, il aurait fallu s'en inquiéter, Jean-Luc. Mais ça a été le cas et effectivement aujourd'hui ils sont en bonne position pour recreuser un petit écart au championnat si tout se passe bien en course.
Alors Louis, si on observe effectivement les temps réalisés en qualif et les positions plus exactement en Russie, Vettel avait donc la pole devant Raikkonen, donc c'était déjà une première ligne toute rouge. Et puis on a eu la même chose à Monaco, mais inversée avec Raikkonen devant Vettel. Donc effectivement, on peut dire que les Ferrari repointent le bout de leur museau en fonction évidemment, et Adrien l'évoque souvent, des caractéristiques des circuits, Louis.
Exactement, et Toto Wolff, le patron de Mercedes, expliquait hier à l'issue de la séance de qualification qu'il fallait s'attendre à ce même genre de performance ou d'écart de performance sur un circuit comme Singapour, qui est également un circuit en ville extrêmement sinueux. Le Grand Prix de Singapour, ça sera au mois de septembre. Entre-temps, il y aura eu Spa et Monza, qui là devraient être davantage en la faveur des Mercedes. À noter quand même que lorsque Vettel et Raikkonen s'étaient retrouvés dans cet ordre-là sur la grille de départ, premier et deuxième, c'était en Russie, et c'est Valtteri Bottas qui l'avait emporté. Et oui. Valtteri Bottas, il était parti troisième, comme aujourd'hui. Alors évidemment, il y a une très très longue ligne droite sur le circuit de Sochi qui lui avait permis de prendre l'avantage à la faveur d'un magnifique jaillissement au départ. Ça ne sera pas du tout la même limonade cet après-midi. Mais les planètes sont peut-être alignées pour Valtteri Bottas, qui reste sur une impressionnante série. Sur les quatre derniers Grands Prix, c'est une victoire et trois deuxièmes places.
Absolument, Valtteri Bottas qui a marqué beaucoup beaucoup de points, ce qui lui permet d'être le troisième larron dans cette bataille pour le titre. On répète le total de points, 177 pour Vettel avec 3 victoires, mais la dernière ça remontait déjà à Monaco, hein. Lewis Hamilton 176 et lui la dernière victoire évidemment c'était en Grande-Bretagne, et Valtteri Bottas qui a réussi à l'emporter à 2 reprises et la dernière c'était en Autriche. Donc ça veut dire que effectivement Bottas plus que jamais est un acteur. Tiens Louis, la bonne nouvelle c'est que je crois qu'on ouvre la voie des stands.
Ça y est, la voie des stands est ouverte. Alors vous entendez peut-être le murmure des moteurs. Moi je vous avoue que j'entends pas grand chose parce que juste derrière ma cabine de commentaires, il y a la fan zone.
Et, oui.
Et c'est plutôt du R&B que j'entends en ce moment. Donc, et ça fait, je vous assure, plus de bruit que les moteurs hybrides.
Ben malheureusement, on va y revenir. Là, si tu me tends la perche, je l'attrape au vol. Alors il paraît qu'on travaille sur le bruit également pour la redéfinition des nouveaux moteurs. Mais il faudra patienter, hein. Ce sera à partir de 2020. Donc on a encore le temps. Effectivement, tu auras le temps d'écouter de la R&B. Allez, on va écouter l'homme qui va pointer le museau de la plus rapide des Red Bull Renault. Il s'agit de Max La Menace. Max Verstappen, qui est cinquième sur la grille de départ. Il partira du bon côté, justement, de cette grille, le côté balayé, derrière Vettel, derrière Bottas. Et on va, il est plutôt bien rassuré, on va dire, par les performances de sa Red Bull en qualif. Au micro de Louis.
C'était mieux que ce qu'on pensait. Après la troisième séance d'essai, je n'étais pas complètement satisfait. Et depuis le début du week-end, je n'étais pas très à l'aise avec la voiture, mais on a réussi à y remédier en qualif. Ça devrait donner une course très intéressante. J'ai l'habitude de prendre d'assez bons départs et il faudra que ce soit encore le cas. Après, je serai dur à doubler, donc on verra bien.
So let's see.
Ah, il le dit, hein. Il va être dur à doubler.
Je serai dur à doubler. Ouais, c'est un peu négatif
on
comme.
On peut lui faire confiance.
Ouais, mais c'est un peu négatif comme raisonnement. C'est rare d'entendre ça de la part de Max Verstappen. On penserait qu'il regarde plus vers l'avant, surtout qu'il prend des très bons départs. Et c'est un circuit où le premier tour réserve toujours du beau suspense. Dans tous les cas, Max Verstappen, on a l'impression que la roue peut-être a tourné au dernier Grand Prix. Il avait écopé de plein de malchance. Et au dernier Grand Prix, il avait fait quatrième, Max Verstappen, si je ne m'abuse, et c'est Daniel Ricciardo qui avait eu des soucis de fiabilité sur sa Red Bull, alors que lors des Grands Prix précédents, c'était plutôt l'inverse. Donc il est en bonne position, peut-être dans une meilleure spirale,
dynamique.
Pardon.
Voilà, une dynamique. Alors, il y avait vraiment très peu d'écart entre Verstappen, cinquième temps, 1:16.797, pour être très précis. On est à 5 gros dixièmes, 6 petits dixièmes, comme vous voulez, de Vettel. Derrière, Ricciardo a signé le dixième temps en 1:16.818, c'est-à-dire qu'il y a 21 millièmes, mais c'est vers Nico Hülkenberg qu'on va se tourner maintenant, et on va l'écouter. Avec sa Renault, il a réalisé une belle performance, le septième temps, derrière la bande des six, hein, les pilotes Ferrari, les pilotes Mercedes et les pilotes Red Bull. Malheureusement, il va être privé de cette belle perf. On écoute quand même Nico Hülkenberg, plutôt content au micro de Louis Hamar.
Évidemment, je suis très content du comportement de la voiture. Elle est excellente depuis le début du week-end. On a trouvé le bon équilibre. Et puis, lors des séances d'essai libre, nos longs relais étaient prometteurs. Donc, ça s'annonce plutôt bien. Évidemment, ma pénalité fait mal, mais ce sont des choses qui arrivent. Nous n'avions pas le choix. Il fallait changer ma boîte de vitesse. Mais nous avons une bonne voiture et je pense qu'on peut revenir.
Eh ben, on l'espère pour lui, effectivement, puisque, on vient de le dire, hein, Nico Hülkenberg, avec cette pénalité, encore, hein, vous savez ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que c'est dommage de frapper un pilote au plan sportif. En un mot, Louis, parce que lui n'y est pour rien. On a changé sa boîte et on pénalise encore une fois l'aspect sportif. Bon, tu vas me dire, c'est une manière de donner aussi du peps à une grille de départ, non?
Ouais, oui, c'est vrai, mais là en l'occurrence ça en enlèverait presque concernant Nico Hülkenberg, parce que en plus c'est vraiment dommage pour les Renault, parce que s'il y a un circuit où ils pouvaient espérer briller, c'est bien celui-là. Leur moteur, même s'il a montré des progrès en termes de performance, n'est pas encore au niveau évidemment des Mercedes et des Ferrari. Donc sur un circuit où la performance moteur a justement moins d'influence qu'ailleurs, Nico Hülkenberg, qui en plus est sur une bonne dynamique après un super Grand Prix de Grande-Bretagne, pouvait espérer de belles choses. Après, rien n'est impossible, hein. Nico Hülkenberg, il va partir en 12e position. Est-ce qu'il y aura un miracle pour lui? Il faut se souvenir que seulement deux fois sur les 31 Grands Prix disputés, le vainqueur n'était pas dans les quatre premiers.
Ah oui, voilà,
c'est arrivé en 1989 pour Nigel Mansell et en 2006 pour Jenson Button. C'est situé le niveau de performance que Nico Hülkenberg devrait atteindre s'il voulait gagner. Ça serait évidemment la première victoire de sa carrière en Formule 1. Ça serait un événement immense, ou simplement monter sur un podium. Ça serait là aussi une première pour lui.
Bah, ce serait déjà pas mal. Alors, on va vous parler dans un instant de la quatrième ligne surprise de la grille de départ Hongrie. Et oui, ce sont bien les deux McLaren Honda qui sont côte à côte. On va vous en parler dans un instant. Mais après avoir pris des nouvelles, je vous l'ai promis, du rallye de Finlande où se trouve Eric Briquet. Salut Eric.
Salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Salut. Alors, on parlait, Eric, de surprise. Et bien là, on peut dire que c'en est une. En tout cas, les dernières nouvelles que j'avais, c'était un Finlandais, mais pas celui qu'on pensait, pas celui qu'on croyait, qui se retrouve en tête de ce rallye de Finlande. On le rappelle, qui est le Grand Prix de Formule 1 du WRC. On peut dire ça comme ça.
Oui, effectivement, c'est le rallye le plus rapide de la saison avec la Pologne, sauf qu'ici c'est un petit peu différent parce qu'il y a quand même beaucoup de virages et beaucoup de forêts autour des virages. Donc c'est vraiment un rallye très très chaud et qui débouche donc effectivement sur une surprise. On ne l'attendait pas de sitôt, le jeune Estapeka Lapi, 26 ans. Il a commencé sa carrière en WRC dans l'équipe Toyota seulement au mois de mai au rallye du Portugal. Et vous voyez qu'en l'espèce de 3-4 rallyes, eh bien, il a réussi à décrocher sa première victoire. Il faut dire que hier, il était en bagarre avec son coéquipier et né. Yari Matilazvala qui a eu un problème mécanique sans soucis électroniques. Je pense que Lazvala était en mesure de s'imposer. Il était en tout cas passé en tête à ce moment-là et il semblait irrésistible. Mais voilà, c'est la course. Un problème sur une Toyota et c'est une autre Toyota, celle de Lapi, qui s'impose.
Et on peut dire que Toyota impressionne. Alors on sait qu'évidemment l'équipe est basée là-bas, en Finlande, hein, Eric. Mais apparemment les développements et les essais qui ont été menés sur ces pistes très rapides avec des sauts, il faut le rappeler, des sauts à pratiquement 200 km/h au milieu des arbres. Hein. C'est extrêmement impressionnant ce Grand Prix. Tu vois, lapsus révélateur.
Plus de 40 mètres de longueur pour certains et même un saut à 50 mètres dans la terrible spéciale d'Udine Poya. C'est dire si les voitures restent longtemps en l'air, à 2-3 mètres du sol. C'est vraiment un rallye, une épreuve en trois dimensions. C'est totalement atypique. Il n'y a aucune autre épreuve du championnat qui ressemble au spécial du rallye de Finlande. Voilà pourquoi il est très prisé. Voilà pourquoi aussi les pilotes finlandais ont toujours été des experts ici parce que ils ont l'habitude d'évoluer sur ce genre de route dans leur championnat national. Et puis c'est vrai, tu l'as dit Jean-Luc, cette voiture, la Toyota, depuis qu'elle a été reprise, du moins l'organisation a été confiée à Tommi Mäkinen, et bien cette voiture a énormément roulé sur les routes finlandaises en 2016 pour le développement de cette voiture et même en 2017 aussi pour les essais. Donc ils étaient prêts, il y avait trois pilotes finlandais dans cette équipe, je les rappelle. Il y avait Jari Matilazvala qui faisait figure de favori. Il y avait le vétéran Juho Onninen, 37 ans. Et puis le petit jeune, le petit dernier, Estapeka Lapi, 26 ans, champion de WRC2 2016 et qui donc a eu l'opportunité d'accéder au sommet de la catégorie avec ce contrat signé chez Toyota. Donc c'est sa première saison. Et voilà donc désormais première victoire. Et quelle victoire quand même! Pour un Finlandais, gagner un rallye, c'est déjà énorme, mais s'imposer à domicile, c'est un petit peu comme gagner le Grand Prix Monaco pour un pilote de Formule 1.
Bien sûr. Alors, domination des Finlandais, domination de Toyota. Alors, quid de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, dont on sait qu'ils sont partis en tonneau dans la quatrième spéciale. Et quid de Thierry Neuville, qui profite pas trop des malheurs du Français?
Voilà, mais je vais continuer déjà à te donner le classement du podium, parce que ça s'est joué vraiment sur la fin. On était tout près d'un doublé Toyota, puisque Onninen était en bagarre pour la deuxième place. Et il se fait devancer de 0,3 dixième de seconde après 3 jours de course par le jeune gallois Elfyn Evans sur la Ford Fiesta. Donc c'était vraiment très très chaud. Ensuite, on a une autre surprise, c'est à la quatrième place, c'est Timu Sunninen, encore un nom retenu, encore un Finlandais qui s'est révélé sur cette édition avec une Ford Fiesta privée. Cinquième place seulement, Craig Breen, premier Citroën, très décevant l'équipe française. Et sixième place seulement, et là aussi c'était un peu un désastre chez Hyundai, puisque Thierry Neuville est sixième, il n'a pas vraiment pu profiter de l'abandon de Sébastien Ogier, mais avec les 8 points de sa sixième place et 3 points arrachés à la Power Stage, eh bien, il en marque 11. Et c'était justement l'écart qui le séparait du Français, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux pilotes en tête du championnat avec 160 points. C'est donc le Belge Thierry Neuville et le Français Sébastien Ogier. Et à la différence de victoire, 3 victoires pour Neuville, 2 pour Ogier. C'est donc le Belge qui ouvrira la route lors de la prochaine manche mi-août en Allemagne.
Ben voilà, tu nous as donné les clés. On la suivra évidemment cette prochaine manche en Allemagne aussi sur RMC. Eric Briquet, envoyé spécial d'Auto Hebdo. Merci beaucoup Eric, je crois que tu nous as dit l'essentiel là. On va repasser à la Formule 1. Merci infiniment et bravo à ce jeune Finlandais qui promet décidément. Salut Eric, merci beaucoup.
Salut
Eric.
À tous.
Allez, voilà, je vous avais promis le résultat à chaud, c'est le cas de le dire, de ce rallye de Finlande. Eh bien voyez, on remet les compteurs à zéro, comme en Formule 1 finalement, à quelques épreuves de la fin de saison. On est sur RMC, la radio de la Formule 1. On en reparle dans un instant évidemment avec Adrien et avec Louis. Vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motor CV. RMC Motors Jean Lecroix.
Et ben voilà, je vous l'avais promis, on revient évidemment à cette grille de départ de la Formule 1. Alors on a parlé de la première ligne, toute rouge aux couleurs des Ferrari de Vettel et de Raikkonen. La deuxième ligne, toute grise aux couleurs des Mercedes de Bottas et d'Hamilton. La troisième ligne, toute, allez, on va dire bleu foncé aux couleurs des Red Bull Renault de Verstappen et de Ricciardo. Et bien la quatrième, elle est orange et noire. Louis, quelle surprise avec Alonso et Van Dorn qui n'ont pas laissé passer l'occasion de briller sur ce circuit atypique.
Ah, c'est le week-end de l'année hein, pour les McLaren. Jamais Eric Boullier n'avait affiché un tel sourire, le patron de l'équipe, depuis le début de saison. Il faut dire que l'année dernière déjà, hein, les McLaren avaient réussi en qualification exactement la même performance, 7e et 8e position pour Fernando Alonso et Jenson Button à l'époque. Cette fois, c'est Stoffel Vandoorne qui lui a emboîté le pas. Et donc, il y aura une possibilité pour les McLaren, peut-être pour les deux McLaren, de terminer dans les points, si évidemment leur moteur Honda veut bien finir la course.
Et oui, on l'espère, parce que je suis en train de me reporter aux résultats. Et je vois que Alonso avait terminé 7e quand même hein, de
oui,
ce
Button abandonné.
Et Button abandonné, exactement. Donc il était rentré dans les points. Allez, c'est tout le mal qu'on souhaite pour son 36e anniversaire, hein, c'est ça, de Fernando Alonso. Il vient de le fêter là.
Oui, il vient de le fêter et d'ailleurs on lui a demandé qu'est-ce qu'il souhaiterait comme cadeau pour son 37e l'année prochaine et il a répondu un moteur.
Je crois que j'ai une petite idée. Alors Adrien, un mot parce qu'on est, on a plein de réactions encore. Un mot sur cette performance des McLaren. On sait que le châssis est bon, hein, le problème il est du côté des moteurs.
Ouais, exactement, Jean-Luc, on l'attendait un peu cette bonne performance ici en Hongrie. L'équipe avait même tout fait pour écoper de leur pénalité et leur changement de boîte de vitesse, de bloc moteur, de différentes parties du moteur avant ce Grand Prix, dans les Grands Prix précédents. Donc ils sont un peu à neuf en ce qui concerne le côté moteur. Donc a priori au niveau de la fiabilité ça devrait aller. Et encore une fois c'est un circuit où le moteur n'est pas trop mis en avant. On n'a pas besoin forcément d'un très bon moteur pour bien figurer en Hongrie et c'est le cas pour l'instant des deux McLaren. Donc c'est bien, c'est positif. Et Stoffel Vandoorne est revenu dans le match dès que la voiture ça y est un peu plus ça laisse. Peut-être que maintenant il a les dernières évolutions les mêmes que Fernando Alonso, il est dans le coup, le Belge.
Oui, le jeune pilote belge qui est à 3 dixièmes de Fernando Alonso. 1.17.549 pour Fernando, 1.17.894 pour Stoffel. On écoute Fernando Alonso qui n'avait pas pu profiter des qualités de la McLaren, vous en souvenez, à Monaco, puisqu'il était aux 500 miles d'Indianapolis. Il est au micro de Louis Amar, bien sûr.
C'est un bon week-end jusqu'à présent. On est compétitif, toujours dans le top 8 et l'objectif, ça sera de faire aussi bien en course. Ici, c'est un circuit où il est difficile de se suivre, encore plus difficile de dépasser, où il n'y a pas beaucoup de dégradation des pneus. Donc je pense que si on réussit notre départ, on devrait conserver nos positions.
Et ben voilà, donc peut-être une 7e place en vue. Il sait que c'est le meilleur des autres, hein, le meilleur des non-Ferrari, non-Mercedes et non-Red Bull, a priori, pour Alonso et Van Dorn sur la 4e ligne. La 5e ligne, eh bien, elle sera composée d'une Toro Rosso, celle de Carlos Sainz, dont on ignore toujours la destination 2018. Hein, on parle beaucoup, évidemment, de l'avenir de Carlos, peut-être chez Renault, allez savoir. Mais on rappelle qu'il y aura des essais avec Robert Kubica juste après ce Grand Prix de Hongrie. Julian Palmer, lui, est 10e, parce qu'évidemment, on vous l'a dit tout à l'heure, Nico Hülkenberg a été rétrogradé de 5 places à cause d'un changement de boîte de vitesse. On va écouter tout de suite, tiens, Esteban Ocon. Qui va nous parler, lui, de ses qualifs. Il partira 11e sur la 6e ligne de la grille de départ.
C'est sûr que c'est pas génial qu'on n'arrive pas à aller en Q3. C'est un week-end un peu difficile depuis le début. Il nous manque un petit peu de performance au global. Mais bon, on a amélioré bien la voiture depuis le vendredi. On a fait un gros step le samedi. Mais voilà, ça suffisait pas. Il nous manque un petit peu de grip dans les virages moyens et c'est là où on perd pas mal de temps. Donc voilà, le feeling est bon dans la voiture, les upgrades ont super bien marché, mais voilà, il nous manque un petit peu de performance au global.
En tout cas, la performance, Adrien, il l'a trouvé en qualif. Hein, ça y est, il est devant Pérez, puisque 12e temps pour Esteban Ocon, qui partira 11e, je viens de le dire. 1.18.495. Sergio Pérez, le rapide mexicain, avait signé 1.18.639. Ça y est, c'est fait.
Ouais, il a fait la plus importante partie du boulot, entre guillemets. Esteban Ocon, il devance son coéquipier sur un circuit qu'il affectionne. Il le disait avant le week-end, il a gagné en F3 en Hongrie. C'est un circuit qu'on aime ou qu'on déteste. Pour Esteban, il apprécie ce circuit. Et encore une fois, on se retrouve dans cette situation où les caractéristiques des monoplaces, les conceptions de ces monoplaces conviennent plus ou moins bien à des circuits. Et en ce qui concerne la Force India et même la Williams, ce sont des monoplaces qui ont un très bon moteur et une très belle aéro, très épurée avec pas beaucoup de traînée, donc ils sont rapides sur les circuits rapides. Mais là où on a besoin de grip mécanique et d'appui, ils sont un peu plus en difficulté. Donc c'est une bonne performance en tout cas personnellement pour Esteban.
C'est clair. Très bonne performance pour Esteban qui partira, je vous le rappelle, 11e sur la 6e ligne de la grille de départ. Alors ensuite, on va parler de l'autre pilote français. Louis, on peut dire qu'il s'est battu avec sa monoplace, hein, avec un équilibre très difficile à trouver, Romain Grosjean.
Oui, ça a été extrêmement précaire pour Romain Grosjean depuis le début du week-end. Il s'est plaint notamment de sous-virages et de survirages alternativement sur un même tour. Ça, c'était lors de la deuxième séance d'essais libres. Il est repassé sur ses freins Brembo alors qu'il avait pensé à changer pour les Carbon Industries. Finalement, ce ne sont pas des problèmes de freins qui, semble-t-il, sont en cause. C'est un problème de rythme de performance qu'il ne parvient pas à trouver alors que l'hymne hongrois s'élève sur le circuit de Budapest.
Cet hymne hongrois qui va se poursuivre, mais on a encore d'autres réactions à vous faire écouter, notamment celle de Romain Grosjean, micro de Louis, qui évidemment souhaite l'aide des cieux, peut-être pour une meilleure performance pendant ce Grand Prix de Hongrie. Écoutez-le.
Ah, je dirais pas non, un orage de fou. Honnêtement, on n'a pas de rythme. On est là où on est en termes de performance, donc je vois pas vraiment comment sur le papier on peut remonter. Après on va essayer de faire la meilleure stratégie et utiliser un petit peu d'expérience, mais là comme ça tout de suite ça risque d'être un Grand Prix compliqué.
Eh oui, un Grand Prix compliqué effectivement que Romain Grosjean va vivre en partant 14e sur la grille de départ depuis la 7e ligne aux côtés de Sergio Pérez. Alors, on va parler français dans une autre équipe et ça c'est la nouveauté, Adrien, mais on le savait, on l'a annoncé il y a quelques jours, hein. C'est Fred Vasseur que tu connais très très bien puisque tu as couru pour lui dans son équipe Art qui prend les rênes de l'équipe Sauber.
Ah, je crois que c'est très très positif pour Sauber. Fred, ça fait très très longtemps qu'il est en sport automobile. Et c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui sait gagner des courses. C'est lui qui a été le mentor de Lewis Hamilton, de Nico Rosberg, j'en passe, hein, Alex Prema est passé par là. Voilà, c'est vraiment un quelqu'un qui sait mener une équipe. Et je pense que chez Sauber, on avait besoin de ça. Maintenant, c'est un gros challenge pour Fred, je pense. Il a déjà pris des décisions en ce qui concerne le moteur. Je crois que c'était une condition même pour lui.
Juste après.
Voilà, excuse-moi, je vais trop
vite. Non, je t'en prie, il n'y a pas de problème. On va l'écouter, Fred Vasseur, au micro de Louis Amar, bien sûr, pour ce retour dans les paddocks de F1. On sait qu'il était chez Renault jusqu'au tout premier jour de cette année 2017 et il en était parti, mais c'est pour mieux revenir. Écoutez-le.
Le projet, je trouve, est excitant. L'infrastructure et la base de l'infrastructure est vraiment séduisante, les installations sont super. C'est sûr que c'est une équipe qui est plus petite que beaucoup aujourd'hui, mais la taille n'y fait pas, il paraît que ça c'est vrai pour tout. C'est quand même une structure plus petite que bon nombre de structures du plateau, et que ça, je pense que ça crée aussi une proximité, une motivation, et l'ambiance est vraiment très bonne.
Bon, dis donc, le sang jovial, le Fred Vasseur, il t'a même fait une confidence là, Louis.
Il est comme ça, Fred Vasseur, il parle sur un ton extrêmement monocorde, mais c'est un peu le Michel Audiard du paddock. Hein. Il a souvent des saillies assez phénoménales, ouais, Fred Vasseur. Ceux qui le connaissent savent qu'on passe rarement de mauvais moments en sa compagnie. Et blague à part, concernant son retour chez Sauber, il a, au-delà de la garantie moteur dont parlait Adrien, et vous allez l'entendre à ce sujet dans quelques instants, il a aussi eu une autre garantie, c'est qu'il aurait les mains libres, ce qui n'était pas le cas chez Renault, notamment concernant le choix des pilotes. Il va avoir cette fois les coups des franges pour choisir ses hommes et la direction dans laquelle il veut mener son équipe. Les premières décisions qu'il a prises sont à ce titre déjà assez prometteuses.
Et on y va. Ces décisions, justement, ça concerne le moteur. Vous le savez, il y avait un préaccord avec Honda qui a volé en éclats. Et Fred Vasseur, évidemment, l'a définitivement enterré. On l'écoute parler du moteur Ferrari qui sera bien le moteur des Sauber en 2018.
Bon, je pense que Ferrari montre aujourd'hui qu'ils sont revenus vraiment dans la bagarre avec Mercedes, que c'est un des tout bons moteurs. Et puis nous, de notre côté, on avait signé un deal avec Honda. La situation entre Honda et McLaren étant un peu compliquée, on avait aussi pas mal de questions parce qu'ils devaient nous fournir la boîte de vitesse. Et puis à côté de ça, Ferrari est revenu, ils étaient prêts à nous fournir le moteur 2018 avec la boîte 2018. Je pense que c'est un vrai pas en avant pour Sauber, avec un gros espoir.
Et en tout cas, voilà un choix qu'il assume. Louis, les Sauber à moteur Ferrari, évidemment, on a connu ça et on connaît ça dans le paddock. Et on va se retrouver dans quelques minutes maintenant, puisqu'on est à moins de 10 minutes du départ du tour de formation de ce Grand Prix de Hongrie que vous allez vivre avec nous, évidemment, sur RMC, la radio de la Formule 1. Restez avec nous.
RMC Motors avec Motors CV.